Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 12 septembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran soutient le cessez-le-feu en cours au Yémen, a réitéré le ministre iranien des Affaires étrangères. Une base militaire turque dans le nord de l'Irak a été attaquée. Et le président burkinabé au Niger pour discuter de la lutte contre le terrorisme. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran soutenait le cessez-le-feu en cours au Yémen, le qualifiant de précurseur potentiel pour l'établissement d'une paix durable dans ce pays ravagé par la guerre. Le chef de la diplomatie iranienne a fait ses remarques à Téhéran dimanche 11 septembre lors d'une rencontre avec Mohammad Abdussalam, porte-parole du mouvement de résistance populaire yéménite Ansar Allah, qui s'est rendu en Iran pour rencontrer de hauts responsables iraniens. Monsieur Amir Abdollahian a mis l'accent sur l'existence d'une relation profonde et historique entre l'Iran et le Yémen, déclarant « La République islamique d'Iran a toujours exprimé son soutien à la réalisation des exigences et de la volonté du peuple yéménite. » Le responsable iranien a également exprimé l'espoir d'une élimination complète du siège que l'Arabie saoudite et ses alliés imposent à la nation yéménite depuis 2015. M. Abdussalam a exprimé sa gratitude envers la République islamique d'Iran pour son soutien au peuple yéménite, informant le ministre iranien des Affaires étrangères des derniers développements survenus dans son pays. Le responsable yéménite a critiqué la coalition dirigée par l'Arabie saoudite pour sa mise en œuvre insuffisante des principaux éléments du cessez-le-feu. Il a considéré que le respect de la coalition pour les questions humanitaires au Yémen était crucial pour l'avancement d'une paix juste dans ce pays. Une trêve négociée par les Nations Unies est entrée en vigueur en avril dernier entre la coalition saoudienne et Ansar Allah du Yémen. La trêve a été prolongée à deux reprises. Le ministre syrien de l'Industrie, Ziad Sabah, a examiné ce lundi 12 septembre avec l'ambassadeur d'Iran à Damas, Mahdi Sobhani, la coopération bilatérale dans le domaine industriel et la coordination conjointe entre les deux pays amis pour reprendre les travaux dans les entreprises industrielles communes en Syrie, surmonter toutes les difficultés et échanger des expertises. Le ministre Sabah a discuté avec M. Sobhani des derniers développements de la situation économique et industrielle en Syrie à la lumière des efforts déployés pour surmonter les répercussions de l'embargo et de la guerre économique imposée à la Syrie. Pour sa part, l'ambassadeur d'Iran en Syrie a réitéré la position de son pays envers le soutien à la Syrie et le renforcement de la coopération et du partenariat industriel entre les deux pays de manière fructueuse et prometteuse. Pour la deuxième fois depuis fin août, une base militaire turque dans le nord de l'Irak a été attaquée. Ce dimanche 11 septembre, la chaîne de télégramme Saber News de l'Irak a fait état de la prise pour cible d'une base militaire turque dans le nord de l'Irak par un missile guidé de type 9M113 Concours. C'est une deuxième depuis le 31 août où la base militaire turque située dans la région de Bamerni, dans la province de Douk, en Kurdistan irakien, a été la cible d'une frappe de missile Concours. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque contre la base turque dans le nord de l'Irak. Mais une vidéo a été diffusée par la chaîne Guerilla TV, affiliée au groupe Parti des travailleurs du Kurdistan. L'armée turque affirme avoir une présence militaire dans le nord de l'Irak pour combattre le Parti des travailleurs du Kurdistan. Cependant, le gouvernement de Bagdad qualifie cette présence d'occupation et la considère comme une violation flagrante de l'intégrité territoriale de l'Irak. Des terroristes de Daesh ont tué dimanche 11 septembre 6 personnes qui circulaient sur une route de la province de Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie. Les 6 victimes, dont l'identité n'est pas encore connue, ont été prises en embuscade par des terroristes de Daesh sur la route de Rorafi, qui conduit à la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Cette embuscade porte à 130 le nombre d'attaques commises en 2022 dans des zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes FTS, dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Au total, ces attaques ont fait 104 morts, dont 37 civils et 67 éléments des FTS. 4 Palestiniens ont été blessés et 20 autres arrêtés lors de l'envahissement par les forces d'occupation israéliennes de plusieurs zones en Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a fait savoir lundi 12 septembre qu'un grand nombre de forces d'occupation israéliennes avaient pris d'assaut la ville de Jenin au milieu des tirs de feu, ce qui a fait 4 Palestiniens blessés, dont une fille, et 7 autres arrêtés. Les forces d'occupation ont également pris d'assaut plusieurs quartiers de Naplouse, les champs de Ralandia à Rots occupés et Aïda à Bethléem, et les localités d'Idna et Betava à Al-Khalil ayant arrêté 16 Palestiniens. 2 missiles de croisière de fabrication américaine ont été interceptés avec succès par les systèmes de défense aériens russes, ont annoncé dimanche 11 septembre des sources informées. Il s'agit d'un incident de nature très grave dans la mesure où c'est la première fois que des armes américaines sont utilisées près de la frontière russe. Le ministère russe de la Défense précise que les 2 missiles de croisière américains de type AGM-35 ARM ont été détruits avec succès par les systèmes antimissiles russes dans la zone de Kharkiv, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec la région de Belgorod. Alors qu'il est, l'endroit d'où les missiles ont été tirés reste inconnu. Néanmoins, une telle attaque menée par les forces armées ukrainiennes s'inscrit dans le cadre d'une tentative d'agression contre la Russie, ce qui pourrait avoir des répercussions irréversibles pour Kiev. Aujourd'hui, de tels missiles peuvent être transportés non seulement par des chasseurs MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne, mais également par des chasseurs Su-27. Le président burkinabé de transition, Paul-Henri Damiba, était à Niamey dimanche 11 septembre pour rencontrer le président Mohamed Bazoum. Les questions sécuritaires préoccupent les dirigeants voisins de la zone dite Détroit Frontières. Ils ont parlé de la mutualisation des moyens, des échanges d'informations et surtout d'opérations conjointes pour combattre les terroristes. C'est accompagné de ses ministres de la Défense nationale, des Affaires étrangères et du commandant des opérations du Théâtre national que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été reçu au palais présidentiel à Niamey dimanche. Cette visite de travail de quelques heures a permis aux deux chefs d'État d'apprécier la situation sécuritaire et de trouver, dit-on, les meilleures stratégies pour coordonner la traque contre les groupes armés sur leurs frontières. À la sortie de son entretien avec le président du Niger, le chef de l'État burkinabé a déclaré que la question de l'insécurité est préoccupante sur les 3 frontières. Le Niger et le Burkina Faso ont à leur actif un accord de coopération militaire et plusieurs opérations conjointes le long de leurs frontières. On peut citer les grandes opérations Tanli 1, 2 et 3 qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et de récupérer du matériel. Avant de regagner son pays, le lieutenant-colonel Damiba s'est rendu au consulat du Burkina Faso à Niamey. Officiellement, au moins 1 million de Burkinabés vivent au Niger. Le président burkinabé a également rencontré le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ancien président Mamadou Issoufou. le Sénégal va franchir une nouvelle étape lundi 12 septembre avec l'entrée en fonction de la plus grande proportion de femmes parlementaires jamais atteintes en Afrique de l'Ouest. Plus de 44% des sièges de la prochaine Assemblée nationale du Sénégal seront occupés par des femmes, soit la plus forte proportion de tous les pays de la région. Le pays se classe au 4e rang en Afrique et au 18e rang dans le monde pour la parité hommes-femmes au Parlement, devant la Suisse, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, selon l'Union interparlementaire, une organisation basée à Genève. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le temps contre l'Iran. Quel risque ? La colère grandit en Europe face à la flambée des prix de l'énergie. Des manifestants descendent dans la rue à Vienne, la capitale autrichienne, et des manifestants italiens attaquent le ministre des Affaires étrangères du pays à Naples. Samedi 10 septembre, des manifestants anti-gouvernementaux ont organisé des rassemblements à Vienne, scandant des slogans contre l'Union européenne, l'OTAN, les mondialistes et le chancelier Alexandre Jalimberg. Les manifestants, qui portaient des drapeaux autrichiens, ont exprimé leur opposition aux sanctions anti-Moscou de Bruxelles. En Italie, selon des informations, le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a été attaqué et qualifié de traître par des manifestants alors qu'il arrivait samedi à Naples pour présenter le plan de son parti avant les élections générales de ce mois-ci. Et que fait l'Europe en réaction? Deux ingénieuses mesures. Elle fixe un plafond pour le prix du pétrole russe et dans le même temps dit un non définitif au pétrole iranien, quitte à se fermer définitivement tout accès au pétrole iranien. Et pourquoi? Pour plaire à l'antisioniste et à ses maîtres américains. L'Iran a critiqué la dernière déclaration non consultative et irréfléchie publiée par les trois signataires européens de l'accord nucléaire de 2015, affirmant que le 3 doit en accepter les conséquences s'il continue à suivre l'exemple d'Israël. Soulignant l'inaction de l'E3 ces derniers mois et sa décision politiquement motivée de proposer une résolution contre l'Iran qui a été adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique en juin, le responsable iranien a conseillé aux trois pays de jouer un rôle actif dans la fourniture d'une solution pour mettre fin à quelques points de désaccord restant au lieu d'entrer dans la phase de destruction du processus diplomatique. L'échec maximal des États-Unis dans la campagne de pression maximale devrait être une leçon pour toutes les parties qui pensent que les menaces et les sanctions peuvent empêcher le peuple iranien de faire valoir ses droits maximaux et de protéger ses intérêts, a déclaré M. Kanani. Le comportement suicidaire des Européens est d'autant plus gratuit que l'entité sioniste ne peut se garder de laisser éclater sa joie et de féliciter l'Europe de s'être planté un couteau dans le dos pour cause d'intérêts sionistes. Après la publication de la nouvelle déclaration de la Troïka européenne sur les négociations nucléaires avec l'Iran, le premier ministre israélien Yair Lapid a apprécié la position de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre concernant la relance de l'accord nucléaire. Lapid a déclaré « Je remercie la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne pour leur position ferme là-dessus. Nous avons eu, ces derniers mois, une conversation intense avec les trois parties et nous leur avons donné des informations actualisées sur les activités de l'Iran dans ses sites nucléaires. Nos efforts pour empêcher l'accord avec l'Iran ne sont pas encore terminés, mais il existe désormais des signes encourageants. Nous cherchons à empêcher l'Iran de créer des bases dans la région, en particulier en Syrie. » Eh bien, toutes ces allégations que raconte Lapid et qu'il relie au nucléaire iranien, le 3 est-elle consciente d'en faire partager la responsabilité rien qu'en publiant ce communiqué? Ainsi, à tout hasard, les frappes aériennes sionistes contre la Syrie, que la résistance en fait désormais payer le prix au contingent US, eh bien, elle pourrait en faire autant au contingent otanien, si, comme le dit Lapid, Le trois partage, comme lui, l'idée de la nécessité de raser tous les deux ou trois jours les infrastructures syriennes dans la perspective parfaitement stérile de mettre à la porte syrienne l'Iran. Mais ceci n'est qu'un seul aspect du danger auquel s'expose la sorte l'Europe dans la mesure où elle vient aussi fourner son nez dans une affaire, elle aussi montée de toutes pièces par les agents sionistes, et qui est l'histoire d'une cyberattaque anti-Albanie, pour le compte de quoi les États-Unis ont menacé l'Iran d'un recours à l'article 5 de l'OTAN. Pour l'heure, cette menace n'a été concrétisée que via une énième sanction décidée contre le ministère iranien du renseignement que les États-Unis disent être le responsable de l'attaque. De cette sanction, le ministère de l'Iran se fiche royalement. Mais il se pourrait que l'Europe, toujours pour plaire au sionisme, veuille aller plus loin. Mais a-t-elle pensé qu'en sera-elle si la résistance décidait de s'en prendre aux intérêts otaniens au Moyen-Orient?
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet, l'OTAN, l'Iran, les États-Unis et Israël. Pourquoi ? Parce que de nouveau, alors qu'on était censé signer dans très peu de temps les accords nucléaires, les accords de Vienne, soudainement les choses se sont modifiées puisqu'en ce début septembre, les États-Unis arrivent avec de nouvelles accusations par rapport à l'Albanie, un allié de l'OTAN, et poussant l'Iran sous pression de nouveau. C'est presque un résumé de 8 ans de négociations avec les États-Unis qu'on fait face à l'heure actuelle en septembre 2022. Alors, le débat, ce sont deux invités, un sujet, ici de nouveau l'OTAN et ses plans machiavéliques concernant toute personne opposée à l'OTAN, une entité qu'on rappelle qui aurait dû disparaître après la Seconde Guerre mondiale, une promesse qui a été faite aux Russes à l'époque, et pourtant l'OTAN est toujours là, voire même a provoqué une guerre directe entre l'Ukraine et la Russie, alors que la Russie n'aurait juste réclamé à ce que l'OTAN s'éloigne de ses frontières et que l'Ukraine n'en fasse pas partie, étant donné que c'est un pays voisin. Pour en savoir plus de cette nouvelle crise avec l'Albanie en plein milieu, nous avons deux invités pour notre débat d'aujourd'hui. Monsieur Luc Michel, géopoliticien en direct de Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour Madame Minadi et bonjour vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Oui, et comme vous le venez de l'entendre, Madame Aïssa Midani est notre deuxième invitée, analyste politique en direct de Damas. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Luc Michel.
Je suis ravie de vous revoir.
Merci
à tous.
Merci pour l'invitation.
Je suis ravie de vous revoir tous les deux sur ce plateau. Alors, j'ai presque envie de dire encore un discours redondant. Depuis 8 ans, on ne fait qu'entendre ce genre de discours concernant les attaques faites sur l'Iran. Mais cette fois, on y a mêlé quelque chose de nouveau, un ingrédient nouveau, l'OTAN, avec l'Albanie qui est donc un allié des États-Unis par le biais de cette institution qui est l'OTAN. Un OTAN qui devait disparaître après la Seconde Guerre mondiale, une promesse orale qui avait été faite aux Russes, qui à l'époque étaient alliés. Si on se rappelle bien, alliés donc de l'Europe et puis des États-Unis pour à l'époque du nazisme. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire là sur cette situation avec l'Albanie ? Est-ce que vous y croyez déjà ?
C'est à moi de parler.
Oui, Madame Midani. Oui, excusez-moi. Oui, Madame Midani.
Merci. Alors, effectivement, l'OTAN devait disparaître le jour de la chute du mur de Berlin. Et le jour où l'Union soviétique a été en fait un peu a disparu pratiquement, et aussi surtout lorsque le pacte de Varsovie a été dissous suite à des accords avec Eltsine et Gorbatchev en 1990. Donc en fait, l'OTAN devait disparaître, mais il n'a pas disparu, alors que le pacte de Varsovie a bien disparu. Donc là, l'Union soviétique a bien tenu sa promesse, mais pas l'OTAN. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est important de voir que dans toutes ces manigances et toutes ces pratiques le départ de l'accord nucléaire, de l'accord sur le nucléaire des États-Unis, de Trump, le fait que cet accord a été signé sous Obama. Et on pouvait penser que le retour des démocrates au pouvoir aux États-Unis, alors qu'ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas de le confirmer, qu'ils ont besoin de retourner au nucléaire et qu'ils ont toute la volonté d'y revenir. Malheureusement, ils sont toujours en train de mentir. Les Iraniens ont recommencé effectivement des discussions indirectes avec les États-Unis et on était effectivement à quelques pas de la signature. Mais on a vu une activité israélienne complètement frénétique de la part pour empêcher cet accord. On a vu qu'il y a eu déjà premièrement le rapport de Grossi, le directeur, le responsable de l'AIEA, le dernier rapport, alors que tous les rapports précédents affirmaient que l'Iran respectait scrupuleusement tous les points de l'accord sur le nucléaire, là, il stipulait qu'il y avait des enrichissements très importants de l'uranium qui faisaient sortir, justement, et que l'Iran n'appliquait pas les termes de l'accord, mais elle n'appliquait pas les termes des visites de l'AIEA et des inspections. Ça, c'était suite à une visite qu'il avait rendue à Israël. Alors, d'ailleurs, on se demande pourquoi, parce qu'Israël ne fait absolument pas partie des pays qui ont signé contre le nucléaire et qui font partie de l'AIEA. Mais par la suite, justement, on voit qu'il y a eu à nouveau une avancée au niveau des discussions concernant le nucléaire. Et étant donné qu'on est à deux pas aussi de la signature, on a vu aussi le chef du Mossad et des services de renseignement israéliens voler aux États-Unis, rencontrer Biden, rencontrer les membres du Congrès. Et à nouveau, on voit ce coup monté arriver, donc attaque soi-disant de l'Iran, attaque cybernétique de l'Iran contre l'Albanie. Il est clair que c'est un coup monté, que c'est une volonté de la part non seulement des États-Unis, mais en fait, c'est une action israélienne qui veut forcer les États-Unis à ne pas aller dans l'accord sur le nucléaire. Donc, il est clair de voir, d'ailleurs, les déclarations récentes des Israéliens, de cet État fantoche d'occupation, c'est que de toute façon, même si le nucléaire, l'accord, même si les États-Unis reviennent à l'accord sur le nucléaire, Israël ne se considère pas du tout obligé d'appliquer quoi que ce soit, qu'il continue à agir avec liberté, etc.
Merci.
Merci,
Madame Midani.
Vis-à-vis de l'Iran.
Merci, Madame Midani. Alors, nous allons passer à notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Alors, à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années, on se retrouve face à des organisations et des États qui peuvent attaquer un pays sans aucune preuve. Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette nouvelle attaque par rapport à l'Albanie, par rapport à une cyberattaque? On sait que les Iraniens sont très forts en piratage, donc c'est vraiment un sujet extrêmement sensible, mais aussi au fait que Israël, donc l'entité sioniste, a bien indiqué qu'il serait prêt à tout. Est-ce que cette phrase n'est pas à demi-mot quelque chose qui est en lien direct avec ce qui se passe avec l'Albanie à l'heure actuelle?
Il y a trois choses à dire. La première, c'est que l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, elle a conduit à un nouvel ordre mondial proclamé par Bush, qui fait des États-Unis la seule superpuissance mondiale. Et ça a été une catastrophe, puisque depuis, il n'y a que des guerres d'agression et des violations constantes du droit international. C'est un signe géopolitique de terreur auquel Poutine a mis un terme avec l'opération spéciale en Ukraine. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les Américains sont prêts à tout. pour ne pas revenir aux accords de Genève et a tenté de faire porter la responsabilité à l'Iran. D'où cette provocation. Moi, je ne crois pas du tout que les Américains veulent revenir à Genève et que les Israéliens les sabotent, mais je crois qu'ils sont tous les deux complices. Blinken a précisé depuis des mois qu'au cas où l'Iran se dirigerait vers une arme atomique, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ils ont dit que toutes les options étaient sur la table. Par toutes les options sur la table, c'est une frappe préemptive probablement exercée par Israël. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est le rôle de l'Albanie dans tout cela. À la fin de la destruction de l'Union soviétique, l'OTAN est passée à la destruction de la Yougoslavie. C'était la Yougoslavie de Milosevic qui était l'héritière de la Yougoslavie de Tito. C'était aussi l'État qui était le leader des pays non alignés, qui était notamment le principal allié de la Libye de Kadhafi. Au bout de 10 ans de guerre, la Yougoslavie était détruite et l'OTAN a constitué 3 Bantoustans, exactement des États fantoches, comme il en existait en Afrique du Sud sous l'apartheid. C'est la Bosnie-Herzégovine, où il y a un commissaire de l'OTAN qui est plus puissant que le président. C'est le Kosovo qu'on a détaché de la Serbie et c'est l'Albanie. En ce qui concerne la Serbie, l'Albanie, pardon, excusez-moi, et le Kosovo, ce sont deux États totalement fantoches livrés aux services secrets de l'OTAN, aux Israéliens et aux mafias qui collaborent avec les services secrets de l'OTAN. Donc il n'est pas étonnant de voir l'Albanie intervenir dedans. Pourquoi a-t-on choisi l'Albanie ? Pour pouvoir dire que l'Iran attaquait un pays musulman, puisque l'Albanie est censée être musulmane. Il s'agit en fait d'une revitalisation par les Américains des théories sur le croissant chiite destiné à briser le monde sunnite au Proche-Orient.
Merci Monsieur Luc Michel pour ces informations. C'est vrai qu'en plus récemment, on a beaucoup parlé du Kosovo parce qu'il y a eu des problèmes par rapport au territoire, au passeport, aux véhicules qui rentrent et sortent de son territoire. Donc c'est plutôt amusant que tout d'un coup l'Albanie également se réveille et dise qu'ils existent d'un point de vue international, je veux bien dire. Ce que il faudrait mentionner, c'est le fait que vous-même, Madame Midani, qui êtes en Syrie, vous savez que l'Iran a fait une force de frappe de drones ces dernières années, qui sont extrêmement dangereux, puisque en Syrie, en Irak, au Moyen-Orient, on les a vus actifs, au Yémen, au Liban, chez les Palestiniens même eux-mêmes, ils ont été extrêmement actifs puisque cette technologie leur a été donnée. Est-ce que vous ne voyez pas également une liaison avec l'Ukraine et le fait et la peur de voir ce matériel arriver en aide aux Russes ?
Écoutez, je crois qu'effectivement, l'Iran a énormément progressé au niveau de ses armes et au niveau de la fabrication des armes, aussi bien au niveau de la force, au niveau de la précision, au niveau de la distance. Et d'ailleurs, on a vu qu'à tous les niveaux, les Américains, ils ont toujours voulu coupler les discussions sur le nucléaire avec les discussions sur les missiles à longue portée en Iran. Chose que l'Iran a toujours refusée et elle a toujours aussi montré que de toute façon, les différents problèmes sont complètement séparés. Ils ont aussi voulu coupler ces négociations ou ces discussions aussi avec l'histoire du Yémen, avec la Syrie, avec la présence de l'Iran et la direction de l'Iran à l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Et l'Iran a toujours voulu effectivement séparer tous ces dossiers. Quand on discute de l'Iran, du nucléaire, on discute du nucléaire et puis c'est tout. Mais en fait, toujours ces intrigues américaines et de l'OTAN et aussi d'Israël. D'ailleurs, Israël fait partie de l'OTAN sans en faire partie. C'est aussi fait partie des États-Unis sans en faire partie. On le sait parfaitement. Moi, je voudrais signaler aussi que toutes ces interdictions à l'Iran d'avoir une arme nucléaire, il faut quand même savoir que Israël possède des armes nucléaires, d'une part, et que d'autre part, ils n'ont même jamais adhéré à la charte de non-prolifération des armes nucléaires. Et voilà que l'AIEA consulte Israël, et Israël impose un certain nombre de choses à l'AIEA et aussi aux États-Unis par le biais de pression du lobby juif aux États-Unis juste avant les élections du midterm, en fait, de la mi-période, là, en novembre. Et donc, ils font pression tous azimuts. Et donc, on voit aussi via l'Albanie maintenant, et on voit aussi vis-à-vis, via les pressions aussi ou les attaques en fait sur la Syrie, les attaques sur le Liban, sur la résistance au Liban, et aussi les menaces sur le puits Karish au Liban. Donc il y a une conjonction quand même des forces pour empêcher d'une part que les gisements pétrolier et gaz qui se trouve dans la mer Méditerranée, les empêcher d'une part à être exploités par les pays qui les possèdent, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, etc. Et puis toujours une prétention de la part d'Israël sur les richesses. Les richesses qui sont des richesses palestiniennes au large des côtes palestiniennes qui est un pays occupé, et en même temps il se targue d'une certaine légitimité à exploiter ces gisements.
Merci Madame Midani. Pour revenir donc aux drones des Iraniens, parce qu'il y a quand même des drones qui sont arrivés à l'aéroport de Moscou. Monsieur Luc Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une réaction directe à l'intervention ou à l'achat par les Russes des drones iraniens et du fait que les Américains ont pu, la CENTCOM a pu tester les performances de ces drones et la peur de les voir agir en Ukraine? Est-ce que, comme Madame Midani, vous indiquez qu'aussi il y a une forme depuis début septembre avec les champs de Karish, il y a une forme d'unité au niveau des résistants qui veulent attaquer tous en même temps? Qu'est-ce que vous en pensez, en sachant que l'Iran est quand même le point central, puisque c'est eux qui donnent la technologie, c'est eux qui parlent au nom des Palestiniens très souvent au niveau international? Qu'est-ce que vous en pensez?
L'intervention de l'Irak avec ses drones, elle a semé la panique parmi les pays de l'OTAN. Il y a d'ailleurs toute une campagne dans la presse occidentale pour faire croire que ces drones ne seraient pas performants. Donc, il y a également le rôle de l'Iran dans la guerre du gaz aux côtés de la Russie. Tout cela fait que l'Iran est devenu une cible encore plus renforcée qu'avant de la part des Occidentaux. Lors des guerres d'Azerbaïdjan, il y a quelques mois contre l'Arménie, et au début de la guerre en Ukraine, la fourniture par la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, aux puissances occidentales, c'est-à-dire à l'Azerbaïdjan et à l'Ukraine, de drones, a faussé le jeu stratégique. On sait que les drones iraniens Bayraktar ont particulièrement fait beaucoup de victimes parmi les Russes. On parle même de généraux russes tués. Et évidemment, ils ont fait perdre à l'Arménie la guerre contre l'Azerbaïdjan. En fournissant maintenant des drones iraniens à la Russie, l'Iran, évidemment, a rétabli l'équilibre stratégique. Il faut également dire quelque chose sur la question du retour du nucléaire civil iranien. C'est que d'un côté, il y a un bloc occidental constitué par les États-Unis, Londres, Berlin et Paris, qui prétendent, c'est un peu comme dans les mauvais films de gangsters américains, les Américains jouent les méchants et les Occidentaux jouent les gentils. Ils voudraient soi-disant aider l'Iran. Il faut quand même dire que dedans, ceux qui ont constitué Israël en puissance nucléaire occulte, ce ne sont pas les Américains, ce sont principalement les Européens. C'est la France de De Gaulle qui n'était pas pro-arabe, contrairement à ce qu'on croit. qui a donné l'arme atomique à Israël dans les années 60. Et aujourd'hui, ces missiles sont montés sur des missiles de croisière modifiés Pershing américains, mais qui sont installés sur des sous-marins de poche allemands de la classe Dolphin. Ce sont donc Paris et Berlin qui sont les responsables de la puissance nucléaire occulte israélienne qui menace la Méditerranée et le Proche-Orient. On les voit donc mal intervenir comme arbitre dans la question du nucléaire iranien. À peine gigantesque hypocrisie.
Merci, Monsieur Luc Michel, et Madame Midani, pour ces deux analyses. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une sorte de tournant de l'histoire du Moyen-Orient, parce que pour une fois, on peut presque voir une forme d'unité sur les différents territoires. On parle quand même de territoires qui n'étaient pas forcément tous d'accord, rien que d'un point de vue religieux, d'un point de vue ethnique aussi. Il faut rappeler qu'on parle de centaines d'ethnies qui sont dans tout le Moyen-Orient, qui avant travaillaient sous forme de tribus, ne se mettaient pas forcément d'accord. Et là, on voit vraiment une forme d'unité. Est-ce qu'on est dans un moment de l'histoire, 2022, pour être une date historique pour ce qu'on appelle le Moyen-Orient d'un point de vue d'unification? On parle également de résistance, mais vous-même, Madame Midani, vous avez exprimé lors d'un débat que la Syrie, ce n'est pas seulement la résistance, c'est également tout un peuple qui veut s'unifier pour mettre fin à la situation accablante du territoire et du vol permanent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Effectivement, il y a un tournant, mais il n'est pas vraiment bien opéré, je dirais. Au niveau des pays de l'axe de la résistance, oui, mais on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de diversions, par exemple, qui ont été faites en Irak tout de suite après le... À chaque fois que l'Irak adhère effectivement à une sorte de fluidité et d'unité avec la Syrie et de fluidité des mouvements économiques, en fait, ouverture des passages entre la Syrie et l'Irak, on voit que tout de suite le lendemain, il y a aussi diversion et il y a des gros problèmes qui explosent dans le pays, des manifestations, etc., des occupations. C'est arrivé à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a eu un accord entre la Syrie et l'Irak, à chaque fois qu'on a ouvert le passage Al-Qayyim et Boukamal, ça a été ça. Au niveau du nord-est de la Syrie, c'est pareil. Les Américains ont mis en place Daesh et maintenant c'est Qassad, c'est les forces kurdes qu'ils prétendent qu'ils aident aussi et qu'ils fournissent, mais qui n'ont rien de syrien, qu'ils appellent les forces démocratiques syriennes, qui ne sont ni démocratiques ni syriennes d'ailleurs. On voit aussi qu'il y a eu des efforts très très importants et des pressions très importantes de la part des États-Unis pour qu'il y ait vis-à-vis des pays du Golfe, pour qu'il y ait une normalisation ou une acceptation d'Israël au niveau de leur rapport politique et visant à intégrer justement des relations Arabie Saoudite, Israël, les Émirats Arabes Unis.
Merci, Mme Midani. Excusez-moi, etc. Excusez-moi de vous interrompre. Merci beaucoup, parce qu'on en arrive à la fin du débat. Il est vrai qu'on peut parler à chaque fois des coups de frein faits par les alliés des États-Unis et de l'OTAN concernant le Moyen-Orient. Vous avez parfaitement raison et je suis d'accord. Je m'excuse de vous interrompre. Malheureusement, le débat prend fin maintenant. Il faut bien mettre un fin à un moment donné. Dans tous les cas, vous avez bien entendu, l'OTAN de nouveau est mis et réagissant à ce qui se passe en Ukraine, même ici jusqu'au Moyen-Orient, en Iran, attaquant de nouveau. Est-ce que ça laisse entendre que les négociations vont s'arrêter là? Est-ce que l'Iran va se retirer de ces négociations qui fait depuis plusieurs années n'arrête pas d'être renégocié? C'est les jours à venir qui vont permettre de les déterminer. Dans tous les cas, moi, je vous quitte ici. C'est la fin du débat, ici à partir des studios de Téhéran.
Une œuvre.
Siavosh Kasraï, le grand berger de l'espérance. La vie est belle. La vie est-elle un ancien et consistant temple du feu? Si vous l'allumez, la danse de son éclat se verra de tous les horizons. Sinon, il restera éteint. Ce de quoi nous serons coupables. Fidèle élève de Nima et fervent connaisseur de littérature classique persane, Siavosh Kasraï, 1926-1995, s'inspire de l'épopée pour distiller des poèmes d'espérance. Le souffle épique de sa création manifeste le goût de la liberté et de la révolte. Il figure, à ce titre, parmi les auteurs hardiment engagés dans le combat contre l'injustice et la cruauté. Dans cette optique, il recourt à la mythologie héroïque persane pour dénoncer le sentiment de résignation et provoquer celui de la révolte chez son peuple, dont l'histoire est fortement marquée par les actes d'héroïsme de personnalités mythiques telles que Arash Kamangir, ou Sohrab. Le courage et le dévouement du premier, qui rendit l'âme pour sauver l'honneur de sa patrie, font ainsi l'objet du premier grand texte poético-épique de la poésie moderne persane. Le poète y chante en effet son amour pour la patrie, l'un des principaux thèmes de son œuvre. Le second personnage, Sohrab, pareillement renommé, est la figure simultanément héroïque et tragique d'un autre de ses textes intitulés « Le Grain Rouge », dont le propos est d'illustrer les conséquences irrémédiables de l'erreur humaine. On peut cependant pas considérer Kasraï comme un poète pessimiste, car il n'a de cesse de célébrer la vie, laquelle porte en soi le printemps aussi bien que l'hiver, et l'espoir en dépit de la noirceur. C'est notamment à travers ses vers lyriques que le poète illustre l'entrelacement de la joie et de la douleur de vivre. Son écriture, de facture humaniste, est une réponse onirique face à l'inertie du désespoir. Une lyrique pour l'arbre. Ô arbre, tu es la grande taille du désir. Dans tes bras, le ciel ne cesse de dormir. Ô arbre, tu es haut, tes mains sont pleines d'étoiles, ton cœur plein de printemps. Ô arbre, tu es beau, lorsque les vents nichent au creux de tes feuilles embellies. Lorsque les vents peignent ta chevelure verte. Ô arbre, tu es tumulte, lorsque la pluie déploie ses griffes sauvages. Ô arbre, dans son festin froid, tu es ce musicien endolori à la belle voix. Sous ton pied, il fait nuit. Des gens sont frappés de nuit. Ils n'ont jamais vu le matin. Qu'as-tu fait avec le jour? Qu'as-tu fait avec le soleil? Ô arbre, sur le champ du regard, es-tu absorbé dans la contemplation? Tu te lis par des milliers de fils aux âmes des habitants de la terre. Ne crains point le tonnerre, ne t'effraie point de l'éclair. Ô arbre, tu es solide. Ô farouche, révolte-toi. Ô arbre, ô unique, comme notre espoir, tu es avec nous et tu es solitaire. la racine et la forêt. Une branche je suis, de la forêt de pins. Sur le corps de ma race sont gravés des souvenirs de coups de hache. Ne nous parle point de brisure, car nous en sommes des familiers. En revanche, nous serions étonnés d'éclore au printemps. Cependant, si l'on m'abat 100 fois, si l'on m'en brise 100 fois les os, au jour promis, je serai le bûcher qui flamboie, je serai la racine d'où naît la forêt. L'arbre, la gazelle et l'étoile. Je suis ce chant d'une triste histoire qui, une nuit, soudainement a perdu sa chère gazelle. Je suis cette gazelle, galopante et sans retour, qui rêve, dans son sommeil, d'un champ printanier aux senteurs de fleurs. Je suis cet astre loin, dont la fare des yeux n'a plus de lumière et qui ne voit plus, hélas, ni le champ ni la gazelle. Né en 1959, quelque part entre le vert des forêts du Mazandaran et le bleu de la mer Caspienne, Salman Harati fut un rouge accident, un éclair qui illumina un court instant le ciel nuageux de la poésie contemporaine persane. Très jeune, il prit place dans la panthéon des grands poètes d'après la Révolution. Celle-ci marqua profondément son œuvre, peu favorable d'ailleurs aux idées extrêmes inhérentes aux grandes périodes de crise qui menacent toujours d'altérer négativement la littérature. Au contraire, les textes de Salman Harati jouissent d'un parfait équilibre établi au moyen d'un langage simple et clair, enraciné dans la vie rustique du poète. Ces textes rappellent à ce titre les poèmes soigneusement cisaillés de Sohrab Sepehri. Harati évite en effet les outrances de toutes sortes, tant au niveau de la forme qu'au niveau du sens, même lorsqu'il décrit le dévouement ou le courage dont firent preuve ses compatriotes pendant la guerre irano-irakienne. Il n'a cependant rien d'un rationaliste, tant il aspire à l'au-delà, à s'élever vers le ciel. Le thème de l'élévation constitue, avec celui de la mer et de la forêt, le troisième élément de l'œuvre de Harati. Comme d'autres poètes engagés de l'époque, il célèbre les valeurs révolutionnaires et chante l'amour de Dieu, partout présent dans son œuvre. Les trois recueils publiés de l'auteur s'intitulent « De cette étoile à l'autre »,« Poème pour enfants »,« Une porte vers la maison du soleil » et « Du ciel vert ». Salman Harati décéda en plein épanouissement, à l'âge de 27 ans. Il est mort dans un accident de la route, par un triste jour d'automne, alors qu'il se rendait à l'école où il enseignait. Moi aussi je meurs. Moi aussi je meurs. Mais pas comme Rolam Ali, qui tomba du haut de l'arbre. Puis les vaches me glairent, mâchant nerveusement les tiges sèches. Qui donnera dorénavant de l'herbe à manger aux vaches? Moi aussi je meurs. Mais pas comme Golbanou, qui mourut au moment de l'accouchement. Puis Sohra devint la mère de son frère cadet et abandonna l'école. Qui tricotera dorénavant des djajim? Moi aussi je meurs, mais pas comme Fatimé d'un rhume. Puis sa mère lava la bouteille qui contenait du parisia vechane dans la rivière. qui apportera dorénavant le blé dans le gerbier. Moi aussi je meurs, mais pas comme Roland Hossein, du venin d'un serpent. Puis son père fixa les vallées et les rivières qui manquaient de ponts et pleura, qui nettoiera dorénavant la bergerie. Moi aussi je meurs, mais dans le tumulte d'une rue bruyante, devant les yeux indifférents du spectacle, écrasé sous les roues sans merci de la voiture, d'un médecin en colère qui rentre chez lui de l'hôpital. Puis deux jours après, dans la colonne des condoléances d'un journal, sous une photo 4 sur 6, on écrira « Ô toi qui es parti, qui remplira dorénavant les poubelles ?»